et à toutes et bienvenue dans notre émission Histoire de savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'ULB. J'espère que vous allez bien où que vous soyez, à la maison, dans les transports ou même dans votre lit en train de procrastiner. On ne juge pas ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, riche, un sujet qui touche à l'identité et à la mémoire de l'Afrique de l'Ouest, le griot. Avec la mondialisation, l'émergence des technologies ou encore, si on remonte plus loin, la colonisation, de plus en plus de fonctions en Afrique tendent à s'affaiblir, à changer et dans le pire des cas, à disparaître. Notamment, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, la figure du griot, gardien de la mémoire en Afrique de l'Ouest. Pour en parler, je suis accompagnée de Travis Mangani-Louwelo. Salut Travis.
Salut Milka, salut tout le monde. Je suis ravi d'être là, surtout pour ce thème. Les traditions, les racines, la mémoire, c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'y attarde.
Aujourd'hui, on reçoit un intervenant spécial, quelqu'un qui va beaucoup nous aider à comprendre ces transformations. Malik Patesso, griot, conteur et chanteur, est avec nous. Bonjour.
Bonjour Milka, bonjour Travis. Je suis ravi d'être là parmi vous.
Comme annoncé, nous allons parler du griotisme et notamment des impacts de la colonisation et de la mondialisation sur ce métier traditionnel. Ces événements ont profondément transformé le griotisme en bousculant les circuits de transmission et en exportant les griots hors de leur contexte culturel originel. Ces dynamiques ont à la fois fragilisé leur rôle social local et ouvert de nouveaux espaces d'expression, notamment à l'international. Aujourd'hui, le griotisme navigue entre sauvegarde des traditions, adaptation aux industries culturelles mondialisées et réinvention identitaire.
Au programme ce matin, des interviews, notamment avec un griot et un professeur dans le laboratoire d'anthropologie de monde contemporain à l'ULB. Et sur le plateau, nous avons également l'honneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir M. Malik Patesso, griot, conteur et chanteur sénégalais. Mais avant, notre coéquipier Nabil El Karfachi a arpenté le campus du Solbosch et vous a demandé si vous aviez déjà entendu parler de griot. Et voici vos réponses.
Non, aucune idée.
Même pas, tu sais pas, t'as pas d'idée ni rien du tout.
Non, malheureusement non.
Non, je ne sais pas ce que c'est.
Ni vous n'avez pas une idée, ni géographiquement, ni de ce que c'est complètement.
Non, désolé.
Moi non plus.
Non, je ne sais pas.
Non, pas spécialement.
Donc en gros, un griot, vous ne savez même pas du tout géographiquement, ni sur quel continent, quelle culture, rien du tout.
Pour moi, c'est un peu large. Je sais pas si tu parles de la nourriture, genre, ou de l'insecte.
C'est plus une culture humaine, genre, dans le sens... Non, c'est pas... Dans le sens où... Enfin, ouais, une culture qui se transmet de génération en génération.
Ah, mais c'est pas en Afrique, les griottes?
Non, c'est pas celles qui chantent.
Ouais, c'est tout ça.
C'est ça, c'est celles qui chantent. Elles ont une voix hyper puissante. Et je crois que c'est par rapport à, dans leur chant, à transmettre des histoires. C'est ça?
Absolument pas.
Tu sais même pas géographiquement, ça vient de... Non.
Nous l'avons entendu, les réponses sont plutôt unanimes. Peu de personnes connaissent ce métier, pourtant essentiel en Afrique de l'Ouest. Il est donc nécessaire de définir le terme avant toute chose. Milka, à toi l'honneur.
Un griot est un dépositaire de la mémoire collective en Afrique de l'Ouest. Poète, musicien, conteur ou encore historien, chargé de transmettre l'histoire des familles et des communautés, de célébrer, conseiller et préserver la parole. C'est à la fois un artiste et un gardien des traditions orales. Bonjour Malik Patesso, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Des griots à Bruxelles, on n'en compte pas beaucoup. Comme nous sommes peu à vous connaître, pourriez-vous vous présenter en quelques mots?
Bonjour. Je dirais bonjour à ceux qui nous écoutent aussi. Nos auditeurs. Et moi, je suis. Mon nom est Malik Patesso. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, je suis artiste, chanteur, compositeur, griot. Griot, ça veut dire que ces gens-là qui mémorisaient l'histoire de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, l'histoire n'était pas écrite dans le temps. Donc, c'est grâce aux griots. Que l'histoire de l'Afrique reste encore, que les gens puissent le connaître.
Monsieur So, Milka vient de nous donner une définition très académique de ce qu'est un griot. Cette définition, est-ce qu'elle vous semble correspondre à la réalité du métier? Et surtout, comment vous définiriez le métier de griot?
Je définirais le métier de griot parce que si, heureusement que le griotisme existait, sinon nous, les Africains, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, notre histoire serait vraiment disparaît. Personne ne le connaîtrait pas. Il y a même jusqu'à maintenant des gens qui disent que l'Africain n'a pas d'histoire. Mais c'est grâce à ce griot-là qu'on riposte, on dit voilà, non. Nous, on a aussi notre propre histoire, et l'histoire de l'Afrique se tient bien parce qu'il y avait des griots qui se sont transmis de père en fils jusqu'à moi. Parce que là, de ceux qui étaient là au moment des faits à nous qui sommes les descendants de ceux-là, c'est nous qui tenons la mémoire de cette histoire d'Afrique.
Comment avez-vous su que c'est ce que vous vouliez faire, et surtout, comment êtes-vous devenu griot? Donc, en d'autres termes, comment se transmet, comment se passe la transmission de la profession?
Mais c'est quelque chose, vous savez qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle des castes. Heureusement qu'il existe ces castes-là. Il y en a chez nous, il y en a qu'on appelle des torodo, des jawando, des polo, des mabo, hein? Ainsi de suite. Et il y avait aussi ce qu'on appelait des labos, les bambados, les gaulos. Les labos, bambados, gaulos, c'est ceux qui s'occupaient de l'histoire de l'Afrique. Et nous, par rapport à ces castes, chacun, c'est comme si on faisait du dispatching de ces rôles, de ces situations. On dit que ceux, les taureaux de ceux qui s'occupent de Al-Qur'an, d'enseigner, d'écrire comme les professeurs maintenant. Et les tchoubalos, c'est ceux qui s'occupaient de poissons. Aller dans la mer.
Donc, si je comprends bien, il y a des métiers déjà faits pour apprendre.
Apprendre.
OK.
Et nous, notre métier, c'était de garder l'histoire de l'Afrique.
OK.
On a remarqué une certaine incohérence concernant le sexe autorisé à pratiquer le métier de griot. Certaines sources affirment que c'est une fonction réservée aux hommes, mais la plupart des griots qu'on a rencontrés étaient des femmes. Alors j'aimerais vous demander, le métier de griot, est-ce qu'à l'origine il est un métier d'homme,
peut-être
de femme
que,
ou les deux?
Peut-être qu'il y a des régions en Afrique où on dit les griots ça appartient seulement aux femmes. Je sais que vers l'Afrique centrale, par exemple, il y a des endroits où on dit que le griotisme, ça appartient aux femmes. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est les deux.
Okay.
C'est les deux. Les hommes s'occupent de jouer des instruments, de raconter de l'histoire. Les femmes s'occupent de chanter pendant les cérémonies rituelles, des mariages. Vous voyez? Et pour réveiller aussi les rois, parce que nous, on était avec des rois. C'est les griots qui jouaient ces instruments pour accompagner des rois pendant qu'ils s'étaient placés. Et les guerriers qui luttaient contre aussi les gens qui venaient leur dérober leurs biens, voyez, redonner du courage. C'est ça cet instrument qui est le hodu, qui s'appelle le hodu, ou khalam. Dans certains endroits.
Trouvez-vous que le métier a changé? Et si oui, est-ce que c'est des changements positifs selon vous, ou alors des changements dont vous vous serez passé?
Non, ça a changé un petit peu. Comme vous voyez, que maintenant, c'est le moment de mondialisation. Par rapport à cette époque, en ce moment-là, les gens jouaient seulement pour réveiller, accompagner les rois. Mais actuellement, les gens intègrent ces instruments-là dans la musique moderne, comme le jazz, le blues, quelque chose comme ça, vous voyez. Ça va avec le temps.
Alors, on se rend bien compte que le griotisme, donc mot qui désigne la pratique, l'art ou encore la culture du griot, a subi des mutations importantes. Pour comprendre ces évolutions, il faut peut-être prendre un peu de hauteur, réfléchir à ce que veut dire, transmettre, à ce que représentent les rites, les objets et la culture dans nos sociétés. Pour aller plus loin, on vous propose maintenant d'écouter l'intervention de notre invité, Anneke Newman, professeur et chercheur dans le laboratoire d'anthropologie du monde contemporain à l'ULB, qui va replacer tout cela dans un cadre plus large. On parlera notamment des acteurs importants de la transmission culturelle en Afrique de l'Ouest. Une interview réalisée par Seyna Bousso et Nabil El Karfachi.
Oui, bonjour, je m'appelle Anneke Newman et je suis professeure à l'ULB, dans le laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains. J'ai effectué depuis 15 ans des recherches au nord du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Bon, ça dépend des contextes, mais d'après ce que j'ai observé au Sénégal, mais ça s'applique aussi à l'Afrique de l'Ouest de façon plus générale, il y a plusieurs acteurs culturels qui ont un rôle important à jouer, mais souvent ce rôle est joué par les aînés. Et souvent, quand on parle d'aînés ou de personnes âgées, on oublie souvent que les femmes jouent un rôle très important. Les grands-mères dans les familles ont un rôle très important en tout ce qui concerne la socialisation des enfants. Pas seulement dans l'arène de tout ce qui est santé reproductive, etc., et des questions de femmes, mais vraiment des questions de transmission culturelle en général, donc à travers des contes ou d'enseigner des proverbes. Vraiment, les enfants, ils passent beaucoup de temps auprès de leur grand-mère, parfois plus, dans la petite enfance, plus de temps avec la grand-mère qu'avec leur propre mère, si la mère, elle travaille, par exemple. Et donc, je dirais que les grand-mères jouent un rôle très important qui est souvent oublié. Mais sinon, il y a aussi d'autres acteurs, les maîtres religieux, par exemple, les maîtres coraniques, donc l'islam, évidemment, et tous ces rituels, c'est un élément très important. Et aussi les griots, par exemple, ça c'est un rôle de transmission de l'histoire, le mémoire collectif. Donc il y a plusieurs acteurs, mais voilà quelques rôles importants. Vraiment, ça dépend des contextes différents, j'imagine. Par exemple, où j'étais au nord du Sénégal, qui est vraiment sur le fleuve Sénégal, près de la frontière avec la Mauritanie. Par exemple, si on prend le groupe des forgerons, parce que c'est une société qui est basée sur des groupes basés sur l'ascendance, qui sont associés à une profession ou un métier coutumier. Et donc, si on prend le groupe des forgerons, qui est nommé car les hommes travaillaient les métaux, la transmission de ces compétences, de ces traditions, se faisait à travers la pratique. Donc, bien vrai que les jeunes... Ils fréquentaient les écoles publiques, du primaire jusqu'au baccalauréat. Pendant les vacances scolaires, par exemple, ils fréquentaient les ateliers de leur père ou de leur oncle ou de leur grand-père pour apprendre ce métier, ces compétences. Mais il peut y avoir, par exemple, on organisait aussi des conférences. Les maîtres coraniques, par exemple, les chefs religieux organisaient des conférences sur des questions de rituels islamiques ou l'histoire de personnes importantes. Mais il y a aussi beaucoup de programmes à la télé où on met en évidence certains principes culturels ou surtout la musique. Donc vraiment, il peut y avoir beaucoup de voies par lesquelles on célèbre la culture. J'imagine que les réseaux sociaux... Ça devient de plus en plus important, que les jeunes aussi participent à ça. Les jeunes rappeurs, par exemple, il y a une tradition, pas une tradition, mais le rap, la musique rap est très important au Sénégal. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui font une sorte de mélange de genres musicaux qui combinent à la fois voilà, le rap qui est venu des États-Unis, mais aussi avec des chants ou des paroles qui sont plutôt issues de la culture sénégalaise.
On le voit bien, les aînés sont des acteurs importants de la socialisation des enfants, notamment les grands-mères, les maîtres religieux ou encore les griots justement. D'autres questions importantes concernent le déclin ou non des traditions ancestrales ou encore les moyens utilisés pour transmettre ces traditions, questions que nous avons bien entendu absolument tenu à lui poser.
Au lieu de dire que ça diminue, ces traditions diminuent, qui sont plutôt dans un état d'évolution constante. Et voilà, il faut regarder dans chaque contexte qu'est-ce qui perdure, qu'est-ce qui change et de quelle manière. Parce qu'il faut se souvenir aussi que les traditions ne sont pas toutes bonnes. Enfin, il y a certaines traditions, par exemple l'excision, ou on les appelle la mutilation génitale féminine, qui est une pratique fort ancré dans la tradition parmi plusieurs groupes ethniques au Sénégal, et on le problématise de plus en plus. Donc il y a dans certaines communautés un abandon de cette pratique, et on pourrait dire que c'est une plutôt une bonne chose. Donc voilà, ça, il y a beaucoup d'évolution, mais il faut regarder vraiment dans chaque contexte, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est abandonné, qu'est-ce qui perdure et pourquoi. Voilà. Ça dépend des gens, des jeunes par exemple, qui souhaitent renforcer la transmission de ces traditions. Il faut voir quelle solution est-ce qu'ils trouvent. Et comme j'évoquais tout à l'heure, donc la musique, par exemple, c'est vraiment... ils trouvent des manières de rendre, entre guillemets, la tradition plus attrayante pour les nouvelles générations. Donc, en le combinant avec d'autres genres, entre guillemets, un peu plus modernes, comme le rap, ou à travers les réseaux sociaux. Voilà, encore, il y a on s'appuie sur des nouvelles technologies pour s'y faire. Donc voilà, il n'y a pas de limite à la créativité. Donc je pense que tous les moyens qui sont à leur disposition, ils vont les trouver. Dakar aussi a un champ donc des festivals de films, par exemple des films documentaires. Il y a aussi la mode, donc on réimagine certains styles entre guillemets traditionnels, mais avec un élément plus moderne, avec des matériaux qui sont plus modernes. Donc vraiment cette hybridité, ce syncrétisme, cette créativité, on le voit un peu partout. Oui, donc la tradition est toujours pertinente. J'ai du mal à penser à des exemples concrets à travers la production sur les réseaux sociaux, donc plutôt enregistrement de vidéos. Ça, on le voit très souvent. Donc oui, il y a la photographie, mais je dirais plutôt les vidéos, on le voit beaucoup. Par exemple, les jeunes où j'ai fait mon travail de terrain au Sénégal, mon terrain principal, ça date depuis 15 ans. Et donc, c'était un peu avant l'arrivée des smartphones. Ou bon, les smartphones commençaient à pénétrer un peu, mais on avait toujours les téléphones à l'ancien où on ne pouvait pas enregistrer des vidéos, des clips audio. Et donc, les jeunes organisaient souvent des pièces de théâtre dans les villages parce que ça ne demande pas de matériel spécifique. Donc voilà, de faire des sketchs ou par exemple des défilés. Donc il y avait beaucoup d'événements organisés autour de la thématique de Chosan. Donc c'est ce qu'on appelle la tradition. Ada et Chosan, c'est-à-dire les coutumes et les traditions. Donc les petits-enfants, même on organisait ça à l'école aussi, donc les enfants, ils venaient, des petits-enfants en grand boubou, et les garçons, on les collait, comment ça s'appelle, le coton, voilà, on les collait pour faire des petites barbes en blanc. Donc voilà, il y a plein de façons de célébrer ces choses, donc sans nécessairement avoir un côté matériel très important. Donc même de trouver des objets un peu quotidiens pour mettre en évidence ces éléments de l'identité culturelle.
Comme nous l'avons entendu, les traditions ancestrales changent et connaissent une évolution constante. Pour reprendre les mots de Hanneke Newman, l'urbanisation, l'émigration et la mondialisation bouleversent les modes de vie et avec eux les formes de transmission qui faisaient vivre les savoirs anciens. D'autres travaux, comme « The Influence of Globalization on the Shift in Local Language and Cultural Identity » de Agnetha Sarit-Kalalombo, paru en 2024, soulignent que l'émergence d'une culture globale dominante, alimentée par les médias et le numérique, réduit la place du folklore, des langues locales et de la transmission orale dans le quotidien des jeunes générations.
Ce changement n'est pas seulement visible dans les rites ou les objets, il touche surtout la mémoire, les récits, la langue et les savoirs immatériels. Autrement dit, ce qui forme le cœur même de la tradition. Si certaines pratiques se réinventent ou trouvent une nouvelle vie grâce aux technologies modernes, la tendance générale reste celle d'un affaiblissement de la transmission intergénérationnelle. C'est précisément dans ce contexte que des formes comme le griotisme doivent aujourd'hui naviguer, se transformer ou se réinventer pour survivre. Merci beaucoup à Hanneke Newman pour ses éclairages et de nous avoir accordé cette interview. On voit à quel point ce sujet est vaste, complexe et pourtant essentiel dans nos vies modernes. Et vous qui nous écoutez, restez bien avec nous, car on n'a fait que la moitié du chemin.
Après la pause, nous aurons la chance d'avoir un invité exceptionnel, un griot, véritable porteur de mémoire, un homme qui vit de la parole, de la transmission, de l'art du récit. Il nous expliquera son rôle, son héritage, et surtout, il nous racontera une histoire, une vraie, une qui traverse le temps.
Et pour ceux qui resteront jusqu'au bout, il y aura une surprise finale. Je n'en dis pas plus, mais ça vaut vraiment le détour, alors restez à l'écoute, on revient juste après la pause. Nous venons d'écouter « Viens » d'Anne-Ress et on est de retour pour la suite. Monsieur Malik Batesso, tout va toujours bien? On ne vous embête pas trop, j'espère?
Ah non, non, pas du tout. Et ça fait plaisir même d'être là parmi vous parce que vous savez que nous, on a quelque chose qu'on aimerait toujours aussi transmettre.
Alors, Anneke Newman, qu'on vient d'entendre, évoque le rôle des grands-mères dans la socialisation des enfants, ce rôle souvent oublié d'après elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que votre grand-mère ou quelqu'un d'autre vous a appris la majeure partie de votre culture? Qu'en pensez-vous? Est-ce que votre grand-mère ou quelqu'un d'autre vous a appris la majeure partie de votre culture?
Oui, bien sûr. Il y a les grands-mères, pendant la nuit, après le dîner, il y a un grand feu de bois que nos grands-mères, nos grands-parents, soient assis, nous sommes autour de ces grands-parents qui nous racontent des choses. des contes, des histoires, tu vois. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'est transmis de père en fils.
Alors, maintenant que nous avons pris un peu de recul et discuté plus largement de la culture et de sa transmission en Afrique de l'Ouest avec Anneke Newman, nous avons, comme annoncé en introduction, eu la chance de nous entretenir avec Mamadou Dramé, plus connu sous le nom de scène de Medra Jali, griot, conteur, chanteur et véritable virtuose de la kora, qui est un instrument de musique sénégalais. Il sera question dans l'interview des origines du griot, de l'apprentissage du métier, ou encore de son rôle dans la société. Une interview réalisée par Seyna Bousso et Nabil El Kerfachi.
Et voilà, moi je m'appelle Mamadou Dramé, comme tu l'as si bien dit. Origine sénégalaise, vivant en Belgique, joueur de kora, griot, artiste musicien, auteur-compositeur. Multi-style de musique et professeur de kora aussi. Ben, un griot, c'est quelqu'un qui détient un savoir, déjà. Il a un rôle spécifique, c'est la transmission, que ce soit par le chant, par l'histoire, la poésie, le conte ou par l'instrument. Donc, d'abord, on va les trouver dans les messagers parce que, comme on l'a dit, on est griot, on ne devient pas griot. Donc, c'est une tradition. Souvent, les griots, c'est des gens qui ont un héritage de leurs ancêtres, qui leur donne, qui leur apprend des histoires. Avant, en Afrique de l'Ouest, il y avait des royaumes, il y avait des empires. Et, on va dire, toute l'organisation de l'empereur ou le roi, il y a un griot à côté qui était là, qui jouait le rôle du journaliste, du sociologue, du témoin, et par la musique, par le chant, qui l'apprend, qui doit apprendre ça à son fils, à petits-enfants, et ainsi de suite. Ainsi, de génération en génération, l'Afrique arrive à se souvenir de son passé. Donc, en quelques mots, quelques phrases, c'est ça le rôle du griot, et c'est ça un griot aussi. Mais les origines, on les trouve dans divers endroits en Afrique. Hein. Vous avez le Sénégal, mais on va les trouver parce qu'avant l'indépendance, le Sénégal n'existait pas. C'était des royaumes, c'était des empires. On va le trouver dans le royaume du Djolof, hein, chez les Peuls, comme ça, voilà, chez les Mandeng, avec le grand empereur comme Soundiata Keïta. Et aussi, je crois qu'en Afrique, il y en a un peu partout, parce que même en Afrique centrale, je crois qu'il y avait des griots, qui aussi étaient des messagères, en fait, qui faisaient passer les messages par les instruments, par autre chose. Donc, on les trouve, on va dire, un peu partout en Afrique. Même chez les Arabes aussi, il y a des griots. Donc voilà, c'est, on va dire un peu partout en Afrique, les origines des griots sont un peu... Mais l'apprentissage des griots s'est fait à bas âge, dans la famille. Donc le griot, il va pas apprendre le chant, la musique, la poésie, l'histoire chez les gens. Donc c'est des ans en héritage. Donc l'apprentissage se fait en famille, donc auprès d'un grand-père ou auprès de son père ou d'un oncle ou bien d'un... Voilà, donc on va dire en grosso modo, ça se fait dans la famille en fait, c'est familial. Ah, c'est pour ne pas perdre les valeurs, parce que l'Afrique a des valeurs, on a des valeurs à garder. Et notre identité aussi, parce que notre identité dépend de ça. Et c'est très important, comme on dit, si tu sais pas d'où tu viens, à mon avis, pour savoir d'où on va, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est pour permettre aux Africains de se dire, bon, voilà, moi je viens de là, qui je suis. Au fait, si tu veux, en Afrique, il n'y a pas que des griots, il y a d'autres castes. Tu as par exemple des forgerons, tu as des tisserands, tu as des... ainsi de suite. Mais tous ces rôles-là qui sont là, c'est le griot qui les définit. C'est-à-dire que c'est le griot qui peut développer leur rôle dans la société. Un forgeron, par exemple, tu sais, toi, tu es par exemple Sow, ben, on s'est dit Sow Poulon et ainsi de suite. Donc le griot, à partir de ton nom de famille, pourrait raconter l'histoire de tes ancêtres, quel était leur rôle dans la société avant. Donc du coup, ça permet de garder une continuité que chaque famille, on sait, bon voilà, c'était comme ça, ils étaient comme ça dans la société, d'année en année, de siècle en siècle, jusqu'à nos jours. Donc ça permet les familles, la société, de retrouver son repère, en quelque sorte.
On l'entend bien, hein, on ne devient pas griot, on est griot. C'est bien une transmission familiale. Malik Patesso, le griotisme étant une affaire de famille et étant vous-même père, essayez-vous de transmettre ce métier à vos enfants? Et si tel est le cas, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté quand on essaie de transmettre le griotisme à des jeunes qui grandissent en Belgique et plus largement dans la culture européenne?
Il faudrait essayer de le transmettre à la manière actuelle. Par exemple, si je veux transmettre à Zénabou, à ses frères, comme vivaient les griots dans le temps, ça serait un peu difficile, mais je peux transmettre dans leur tête que ça existait, et ce qu'on appelait des griots. Et les griots, ce n'était pas quelque chose de mauvais, le griotisme, c'était des gens, vous avez... actuellement, il y a des téléphones qui s'occupent d'une place de communication, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Quand c'est les griots qui transmettaient, qui communiquaient, qui permettaient les gens de savoir ce qui se passe de l'autre côté et de ce côté. Vous voyez, avec ces instruments, je voulais vous dire que cet instrument s'appelle le hodou. Le hodou, c'est un lutte africaine qui date plus de 2000 ans. C'est un lutte africain qui date plus de 2000 ans. Qui est ancêtre de beaucoup d'instruments qui se jouent maintenant, comme le banjo, par exemple, comme le banjo africain. Comme le gembri de l'Ignawa, c'est les Arabes, ou bien c'est les Soninké, on l'appelle gembri, mais au Sénégal, c'est le hodou ou le khalam. Ces instruments-là, ce sont des instruments qu'on utilisait pour vraiment transmettre ces communications. Vous savez comment on nous appelle au Sénégal actuellement?
Non.
Les communicateurs traditionnels. Donc vous faites la communication, nous on nous appelle des communicateurs traditionnels, donc on a entre guillemets le même métier. Donc ça fait plaisir d'être là parmi vous et d'essayer de changer, échanger de savoir-faire. Vous voyez?
Merci beaucoup Malik Patesso. Nous avons également demandé à Mamadou Dramé ce qu'il en était de l'adaptation du griot au monde moderne, ou encore le meilleur moyen de faire passer un message ou de raconter une histoire. On vous laisse avec la suite de l'interview.
Les griots maintenant s'adaptent au monde moderne, c'est-à-dire la musique actuelle, faire des mélanges de certaines sonorités et pouvoir, par exemple, on va dire des joueurs de kora ou de ngoni, il vient ici, bon, tu rencontres un musicien de jazzman qui va faire du jazz avec, ou le blues ou autre chose. Donc du coup, souvent maintenant, qu'est-ce qui se passe, beaucoup de jeunes qui jouent l'instrument, qui chantent, ne vont pas forcément prendre ce que faisaient les grands-parents ou le parent. Il va essayer de lui, ce qu'il apprend, l'adapter à ce qui est du monde moderne, quoi. Qu'est-ce qui marche? On va dire, voilà, la chorale, on va la mettre dans l'afrobeat, on va la mettre un petit peu dans le... Donc, je crois que la transmission ne se fait plus comme avant, en fait. Ça a beaucoup changé. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui jouent la chorale vont pas forcément écouter un grand-parent. Ils vont peut-être écouter un Sidiki Diabaté, comment il fait pour adapter sa kora dans la musique moderne. Il va se dire, bon, voilà, peut-être que ce serait bien que j'écoute un petit peu Burna Boy, comment la kora pour s'appliquer à son truc. Donc, du coup, l'apprentissage, comme ça, commence à être un peu différent qu'avant, quoi, en fait. Ah ouais, ils ont des clans, hein. C'est depuis très longtemps. Hein. Depuis très très longtemps, parce qu'il y a une chanson qui disait, hein, les griots mandingues, quand ils chantaient par exemple, il y a une chanson de Sungata ou bien une chanson de Kelefaba, qui était un guerrier du royaume des Gabou. Et il disait, bon, après la disparition du royaume des Gabou, on va dire en quelque sorte, les griots ne savent plus où mettre les pieds, parce que les griots avant avaient une autre organisation sociale, donc ils avaient leur fonction, donc ils payaient pas des impôts, donc on va cultiver à leur place, ils ont tout à leur portée s'ils veulent, c'est tout ce qu'ils veulent, ben ils l'ont, voilà. Et on va dire un petit peu, ça s'est resté un peu jusqu'à le temps de nos papas, encore, hein, en Afrique de l'Ouest, ça existe, mais de cette nouvelle génération, je ne suis pas trop sûr. Je crois que le rôle est en déclin et que aussi beaucoup de jeunes griots ne se soucient pas trop d'apprendre certains morceaux, certaines histoires, certaines façons de jouer, certaines façons de transmettre la tradition. Donc, on va dire, en voulant forcément s'adapter au monde moderne, ben, on a perdu beaucoup de choses. La musique, c'est la voie la plus facile pour la transmission. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, si tu veux passer un message, peut-être forcément les gens ne vont pas t'écouter. Mais quand tu le mets dans le son, ben, ça fait écouter, ça fait danser. Donc à travers, on va écouter les paroles et pouvoir bien les appréhender. Donc oui, c'est la voie la plus facile à transmettre. Il faut savoir que aussi, beaucoup d'histoires de l'Afrique, des rois, des empereurs, la société africaine, on arrive à se mémoriser parce qu'il y avait des compositions de sons qui ont été faits à travers ces choses-là qui se sont passées. Alors, aujourd'hui, on va dire si on veut raconter l'histoire de El Hadj Omar, par exemple, et Onatara, par exemple, il y a un morceau que les griots peuls ont composé pour El Hadj Omar. Donc, à travers ce morceau, donc la personne qui écoute, il va prendre plaisir de la sonorité, il va prendre plaisir du chant, mais entre les chants et la sonorité, l'histoire passe. Donc, la personne va plus écouter l'histoire et les gens qui écoutent à travers, parce qu'il y avait tellement de bonnes choses, une fierté qui s'est passée. Donc, les gens qui écoutent se sentent fiers, ils se sentent glorifiés, ils se disent, OK, voilà. Donc, si les gens disent que mes origines, mais c'est pas vrai, mes origines sont pas comme ça, ils sont comme ça. Donc, c'est une grande fierté. Et du coup, le chant, c'est, tout le monde aime bien, hein, quand on chante, la musique. Donc, c'est la voie qu'on a choisi, ils ont choisi cette voie-là, qui est un peu plus facile peut-être, mais on va dire plus cohérent avec l'histoire en fait. C'est plus facile de faire passer par la musique.
Et oui, on entend bien, le métier de griot est donc un métier qui, malgré tout, est capable d'adaptation. Malik Patessou, en tant que griot, avez-vous déjà été amené à pratiquer le métier de manière peu habituelle à cause de cette adaptation, à cause de ce changement que le griotisme a dû opérer?
Effectivement, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'est arrivé encore de jouer dans les groupes du jazz, de blues, et d'instaurer ce rôle-là avec un orchestre symphonie. J'ai déjà joué avec les Watrwandanabel, avec beaucoup de violons, et ça nous a permis d'aller un peu partout dans le monde. Cet instrument, c'est un instrument qui est facile de s'adapter à d'autres genres de musique.
Merci pour vos réponses. Alors, je vous ai annoncé avant la pause une surprise et je pense que le moment est venu. Travis, je te laisse leur dire de quoi il s'agit.
La surprise, c'est une histoire, celle de Mansa Mississé, racontée directement par le griot Mamadou Dramé. On vous laisse avec l'enregistrement.
L'histoire de Mansa Mississé, c'est une histoire d'un homme. Mansani, c'est son prénom, Sissé, un nom de famille, qui était très riche. Il a beaucoup d'argent et il avait le pouvoir. Et dans le terroir où il était, dans ce côté-là, lui, il croit que toute belle femme lui est destinée, parce qu'il a de l'argent. Et un jour, il y avait un pêcheur. Donc, dans la société, chez nous, les pêcheurs, bon, voilà, c'est quelqu'un qui va se débrouiller, aller pêcher, vendre ses poissons, nourrir sa famille. Donc, c'était un peu pas quelqu'un qui est riche comme lui. Donc, voilà. Et alors, il y avait une belle fille dans le village que le pêcheur disait, est parti dire aux parents de la fille, « Bon, voilà, moi, j'aimerais bien épouser votre fille. » Donc, voilà, je crois que c'est la personne qui veut. Et Mansani aussi voulait épouser la fille-là parce qu'elle est belle. Donc, du coup, comme lui, il a de l'argent, donc il croyait que cette fille, c'est lui qui a le droit de l'épouser et pas le pêcheur, quoi. Et donc, d'après les griots, ils ont organisé l'événement, le mariage. Donc le jour du mariage, il y avait la fête, hein, comme d'habitude dans le mariage. Il y a des griots qui jouent, ça chante, voilà, les tambours, les choras. Et la fille était là, la mariée et tout ça. Et Mansani se préparait aussi pour venir à l'événement. Et le pêcheur aussi, Lui, il se préparait parce qu'il n'était pas content que les parents de la fille acceptent de donner leur fille à Manzani parce qu'il est riche et ne pas le donner à lui parce qu'il est pauvre, qu'il est un simple pêcheur. Mais il se dit, bon, je suis pêcheur, donc l'Afrique, ça, on en est nos réalités. Donc les réalités mystiques, les réalités, voilà. Il se dit, je n'ai pas d'argent, mais peut-être que je pourrais avoir d'autres pouvoirs, moi aussi. Même poser, quoi. Donc, voilà. Alors, le jour du mariage, le pêcheur aussi, il a fait ce qu'il devait faire pour empêcher le mariage. Et Manzani aussi, il était tout content parce qu'il va rencontrer la belle-fille du village. Les gens jouaient et il se préparait dans sa chambre pour aller à l'événement. Mais l'événement a démarré l'après-midi. Normalement, il devait être censé être dans le... Comme vous savez, tu sais bien, en Afrique, il y a des endroits dans les villages, des arbres à palabres, là où on fait tous les événements. Les gens étaient là, les chefs de village, on l'attendait. Le temps file, les griots jouent, les gens chantent, les gens dansent, d'autres mangent. On ne voit pas Manzani venir. Et voilà. Et très longtemps, il y a eu des heures passent, on ne l'a pas vu. Et alors, le griot s'est dit, ah, quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que Manzani, nous le connaissons tous dans cette société. S'il y a un événement, il est souvent le premier à être là pour se montrer. C'est parce que Manzani, c'est l'homme du pouvoir, hein, c'est l'homme qui a de l'argent. Mais à son événement, son jour de mariage, lui, tardé comme ça, ce n'est pas normal. Donc, comme c'est souvent dans la société africaine, il y a beaucoup de choses, quand ça se passe, c'est le griot qui a le rôle d'aller chercher à voir ce qui se passe réellement. Le griot, elle s'est dit, bon, voilà, je prends ma coura, c'est pas grave, je vais aller voir Manzani chez lui, ce qui est passé, comme ça on sort. Hein. Donc, arriva là-bas, dans la chambre, il a trouvé Manzani couché, et le karma a fait son travail. Donc, il parlait pas, il respirait pas, rien ne se passait. Et le griot resta longtemps dans la chambre, en regardant Manzani avec son pouvoir, son argent, avec tout ce qu'il a accompli, et que cette personne reste inerte, c'est ça, qui ne bouge pas. Et il s'est dit, mais comment est-ce que je vais expliquer ça à une foule qui l'attend là-bas, quelque part? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'allais-je faire? Donc le griot, l'arme, c'était la composition. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je vais faire une composition du morceau, faire un chant, et comme ça, à travers la musique et le chant, les gens comprendront. Mon message passera un peu plus facile que j'arrive comme ça à leur dire « Ah, Manzani, il n'est plus dans ce monde. » Donc, arriva, il prend sa kora, il joue, il dit dans la chanson « La célébrité n'empêche guère la mort, la fortune n'empêche pas la mort, la beauté n'empêche pas la mort et qu'aujourd'hui, Manzani n'est plus dans ce monde. » Donc, en chantant comme ça, les gens l'écoutent. « Ah ouais. » C'est ça, donc oui. Donc c'est comme ça que la foule a compris que Manzani n'est plus de ce monde-là. Alors, tirant une conclusion de ce fait, c'est pour dire tout simplement aux gens que votre pouvoir, votre argent, votre beauté, votre célébrité ne doit pas vous pousser à écraser les autres. Parce qu'il y a quelque chose que dont tous les êtres humains sont égaux, c'est face à la mort. Voilà, quoi qu'il arrive, on est tous égaux face à la mort.
Très belle histoire et très belle morale. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a vraiment eu l'occasion d'entrer dans un univers riche, profond et méconnu, celui des griots. À travers les paroles de nos intervenants, on a mieux compris l'importance de ce rôle entre mémoire vivante, médiation sociale et transmission et art. Et ce qui ressort surtout, c'est que ce n'est pas un héritage figé, c'est un métier qui vit, qui s'adapte et qui continue de porter la voix des communautés, même ici à Bruxelles.
Tout d'abord, merci beaucoup Mieux Sociaux pour ces mots et votre présence tout au long de l'émission. Merci aussi à Anneke Newman et à Mamadou Dramé, ainsi qu'à toute l'équipe qui a travaillé sur les interviews, l'équipe qui est composée de Seyna Bousso, Gloriane Toumba et Nabil El Karfachi. Pour la préparation du programme et tous les techniciens qui ont travaillé dans l'ombre pour vous permettre de vous fournir un son de qualité et des enregistrements de qualité. Mais nous vous avons menti, ce n'est pas qu'une seule surprise que nous vous avons concoctée, mais bien deux.
Eh oui, chers auditeurs et chères auditrices, pour clôturer cette émission en beauté, en émotion et en musique, nous avons la chance d'écouter une chanson interprétée en direct par Malik Patesso. Une manière parfaite de terminer ce voyage parce que la musique, c'est aussi ça, la transmission, le lien et l'âme du griot.
Merci à tous de nous avoir suivis. On vous laisse entre les mains et la voix de Malik Patesso et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Radio Campus. Bonne écoute et à la prochaine.
Mi divni kore pa mi sachni kelaveje Jaliyo salligino salliyo.